Donc je vais passer la parole à Thierry Maricourt, hein, qui a été libraire, écrivain, anarchiste, qui est originaire de la cité des 4000 à La Courneuve, qui a fait divers boulots, il a été ouvrier, manutentionnaire, déménageur, maison d'intérim. En 1990, il publie Histoire de la littérature libertaire en France et aux éditions Mania, qui ont été rééditées par les éditions Ressouvenance. Pardon ?
Michel.
Michel, excuse. Et ensuite, Thierry Maricourt a été directeur littéraire du Salon du Livre d'Arras. Bon, la collaboration est aujourd'hui terminée. Et il a aussi manifesté, il a écrit dans plusieurs publications libertaires. Il a été aussi insoumis au service national, ce qui lui a à l'époque conféré 6 mois de prison, soutenu à l'époque par Léo Ferré, Catherine Ribeiro, Bernard Lavillier et un qu'on oublie souvent, Pierre Perret. Voilà, donc il a fait 35 jours de grève de la faim à l'époque et il est toujours parmi nous aujourd'hui.
Merci pour ta présentation, Raphaël. Je te renvoie ça. Oui, et puis, effectivement, donc, mon premier vrai livre publié, ça s'appelle Histoire de la littérature libertaire. Il s'inscrit directement dans le travail qu'avait fait Michel Ragon auparavant, son histoire de la littérature prolétarienne de langue française. Moi, j'étais jeune gamin et j'avais envie de lire des choses un petit peu différentes, un petit peu critiques. Et je cherchais, j'avais besoin de pistes, bien sûr. Et un jour, je tombe sur l'histoire de la littérature prolétarienne de Michel Ragon. Alors, ça a été une mine d'or. Hein, ça m'a donné plein de pistes. Un bouquin que, bien sûr, que j'ai lu de A à Z et que j'ai repris après, comme tous les gens qui connaissent ce livre, hein, je pense. On le reprend, et puis on trouve toujours d'autres centres d'intérêt. Et puis dans ce livre-là, Michel disait, voilà, je présente les écrivains prolétariens, mais alors ils sont de toute obédience politique, les écrivains prolétariens. Bon, en général, ils sont plutôt de gauche, mais pas que. Et quand ils sont de gauche, ils sont plutôt libertaires, voire franchement anarchistes, mais pas que non plus. Mais il y a beaucoup de gens qui sont plutôt anarchistes parmi eux. Et Michel écrivait, il y aurait toute une étude à faire sur la littérature anarchiste. Mais je ne la fais pas, il disait. Et moi, je me suis dit, relevons le défi et puis faisons un bouquin sur la littérature anarchiste de langue française. Donc au départ, je voulais faire quelque chose de court, un petit panorama, quoi, quelque chose de 100 pages avec des noms, et puis pour donner des pistes à d'éventuels lecteurs. Et puis je me suis pris au jeu et en fait, j'ai lu tout ce qu'il y avait des auteurs que je retenais, que je recensais. Alors il y avait tous les auteurs qui étaient morts, hein. Je mentionnais Jules Vallès par exemple, Louise Michel, Octave Mirbeau, Georges Darrien et un certain nombre d'autres, mais ils étaient tous, et puis Henri Poulain, mais ils étaient tous morts. Mais il y avait aussi beaucoup d'auteurs vivants et je me suis dit, plutôt que de me contenter de les lire et puis faire une synthèse avec tout ça, je vais rencontrer les auteurs vivants et puis je vais les interroger. Voilà. Donc ce que j'ai fait pour Michel Ragon, ce que j'ai fait pour Serge Livrosé, pour Agustín Gómez Arcos, pour un certain Bernard Thomas qui était au Canard Enchaîné, enfin un certain nombre d'auteurs comme ça que je les ai tous rencontrés, je les ai interrogés et tout ça, voilà, c'est dans mon bouquin. Avec certains auteurs, ils ont tous été très sympathiques et puis ils recevaient un petit jeune qui s'intéressait à leur œuvre, alors ils étaient tous plus ou moins contents. Ça s'est toujours très bien passé, mais alors avec certains écrivains, il y a eu un peu plus, quoi. Il y a eu des atomes crochus, il y a eu vraiment des choses qui sont passées. Et ça a été le cas avec Michel, où on s'est aperçu finalement, on avait un parcours quand même, alors parcours complètement différent, mais bien sûr, il y a les années d'écart et tout ça, mais plein de points communs et puis une façon de voir le monde un petit peu de la même façon. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, tout bêtement, je me suis dit, ça serait bien que je rencontre Michel Ragon, mais comment faire? Tout bêtement, j'ai fait une petite bafouille que j'ai envoyée à l'éditeur, en l'occurrence à Michel. Et puis, Michel Ragon, il m'a répondu quasiment du jour au lendemain, écoute, Thierry, c'est un beau projet ce que tu veux faire. J'habite Paris, voilà mon téléphone. Et si tu viens à Paris, téléphone-moi et puis on va discuter. Alors, bien sûr, moi, je l'ai appelé tout de suite. On s'est rencontrés une première fois, je l'ai interrogé, tout ça, et puis après on a sympathisé, on s'est revus un certain nombre de fois. Voilà, alors juste en aparté, mais je dois dire que j'ai été... J'étais un gamin, un peu timide, un peu... c'est pas évident de rencontrer quelqu'un de la stature de Michel Ragon. Alors ça, c'était dans les années 1900... Au milieu des années 1980, avec tout ce qu'il avait écrit, sa production éditoriale, son savoir. Il y avait tout ce côté-là qui était un peu intimidant. Mais en même temps, c'était... Un personnage, un bonhomme très, très chaleureux, très gentil. Enfin, quand on lit, ça, on le ressent, mais quand on le rencontre, j'ai eu la chance de pouvoir longuement discuter avec lui, et c'était vraiment quelqu'un de gentil. Voilà. Et c'est pas péjoratif du tout quand je dis gentil. Hein, c'est... voilà. Et puis, donc j'ai retracé sa biographie. Dans ce livre, et ce qui m'a quand même épaté, c'est comment un gamin qui naît au début du XXe siècle, qui est dans un milieu très modeste, où il n'y a quasiment pas de bouquins, où lire c'est une perte de temps, comment un gamin dit « je vais essayer de lire tout ce que je peux » et puis c'est le livre qui va m'ouvrir des portes et c'est le livre qui va donner un sens à ma vie. Voilà, ça se passe, ça, des fois. Et ça m'a interpellé. Ça. Enfin, c'est aussi un peu mon parcours. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin? Et j'ai toujours pas de réponse. Alors, j'ai écrit récemment là, une biographie du jeune Michel Ragon, qui s'appelle Une rage de lire, où j'ai essayé de mettre un petit peu dans ses pas l'enfant à Fontenay-le-Comte, l'adolescent à Nantes, le jeune homme à Paris. Qu'est-ce qui fait que tout ce qui est écrit, il voulait le lire? Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, des magazines, les livres grand public, et puis au fur et à mesure de ses lectures, des choses beaucoup plus pointues qui vont l'amener, parce que lui aussi, il a lu des auteurs qu'on trouvait enfin, dans les années 30, là, les auteurs prolétariens, il s'est dit, c'est mon monde, il parle de ce que je connais, de ce que je vis, et je vais les rencontrer. Donc il a aussi écrit des petites bafouilles à tous ces auteurs-là, qui lui ont tous répondu. Ce qui fait, quand il est arrivé à Paris en 1945, il ne connaissait pas Paris, il ne connaissait personne ici, ou quasiment personne, mais tout de suite, il a su où aller, il a été frappé à la porte du bureau du service de presse des éditions Grasset. Et dans ce bureau, c'était un bonhomme grognon comme tout qui était là, mais aussi grognon que sympathique, c'était Henri Poulaille. Voilà. Et Henri Poulaille l'a un peu pris sous son aile dans un premier temps, et puis lui a fait découvrir le monde de la littérature prolétarienne, et puis lui a fait découvrir aussi tous ses amis anarchistes de Paris. Et là, Michel a tout de suite eu une famille affinitaire. Voilà. Il a rencontré Louis Lecoin. Louis Lecoin, qui était un anarchiste militant. C'est lui qui, à la fin de sa vie, a permis qu'il existe une loi sur l'objection de conscience. Hein. Jusqu'aux années 70, on était appelé au service militaire ou on allait en prison, en gros. Hein. Il n'y avait pas tellement de choix. Louis Lecoin fait une grève de la faim pour contraindre De Gaulle en personne, à mettre en place une loi sur l'objection de conscience. On pouvait ne pas avoir envie de servir la France avec un uniforme. Voilà. Ça a été un des premiers amis anarchistes que Michel a pu avoir sur Paris. Il y a eu aussi Maurice Joyeux. Après la Deuxième Guerre, le mouvement anarchiste était complètement déconstruit. Il a fallu tout remettre en place, plein de choses, et notamment relancer aussi un journal anarchiste. Et alors, il y a eu différentes personnes, et Maurice Joyeux, ça avait vraiment été une des chevilles ouvrières de la reconstruction d'un mouvement anarchiste structuré en France. Voilà. Michel a aussi rencontré le traducteur. Armand Robin, voilà, excusez-moi, j'avais trop. Armand Robin. Armand Robin. Poète. Non, Armand. Poète et puis traducteur aussi. Enfin, c'était. Et puis oui, voilà, qui faisait des bulletins d'écoute. Il écoutait toutes les radios du monde, il faisait des bulletins d'écoute, il synthétisait, et puis qu'après, différentes structures lui achetaient, et qui par ailleurs était aussi un anarchiste assez militant. Voilà, il a rencontré toute cette faune, et il a découvert sa famille affinitaire, et puis il a fait sa place là-dedans en disant « moi, je vais écrire des bouquins ». Alors moi, je voudrais présenter juste en quelques mots, le titre de mon intervention, c'est Michel Aragon, libre et libertaire. Alors, je ne vais pas retracer toute sa biographie, il y a différents intervenants qui vont le faire par morceaux après, au cours des deux jours. Mais moi, juste dire que j'ai retenu ce titre, Michel Aragon, libre et libertaire, parce que pour avoir un petit peu réfléchi sur sa vie, je me suis aperçu que tout jeune, je crois que c'est lui qui a écrit quelque part « On ne naît pas anarchiste, on le devient ». Mais je m'inscris complètement en faux avec lui là-dessus, parce que moi je pense qu'il est né anarchiste, Michel Aragon. Il a consolidé ça après, il n'est pas devenu, mais il a consolidé. Il est né anarchiste avec une façon de voir le monde, avec des réflexes, avec en disant non à certains moments et oui à d'autres. Et puis après, il a étayé toute cette pensée. Voilà, il a passé toute sa vie à étayer cette pensée finalement. Mais je pense qu'il l'était dès le départ. Et je dis ça parce que quand on voit un petit peu son parcours du jeune Michel Aragon, il y a eu des moments où il a su dire non. Et ce n'était pas du tout évident. Ce n'est pas évident de dire non des fois. Et c'est encore moins évident quand on dit non à des gens qui sont pleins de bonnes intentions pour soi. Voilà. Quand quelqu'un vous présente un uniforme, si vous n'avez pas envie, vous lui dites non, je t'emmerde, et puis point. Mais quand c'est des gens qui vous veulent du bien, dire non, c'est pas évident. Et Michel a été capable de le faire à plusieurs reprises. Alors moi, j'en ai recensé quatre. Je pense qu'il y en a eu plein après, mais c'est quatre sur le début de sa vie. Quand il était enfant, il était à l'école des frères à La Roche-sur-Yon. À Fontenay-le-Comte, oui. Je ne suis pas vendéen, alors des fois, je... À Fontenay-le-Comte. Et c'était un bon élève, bien sûr, il adorait lire, et il était en quête de savoir. Donc, et un frère lui a dit, bah, toi, tu devrais rentrer dans la congrégation, et puis tu as un avenir assuré. Assuré. Et ça partait quand même d'une bonne intention, hein, ça. C'était... Et Michel, qui n'était pas plus croyant que nous, a dit non. Je crois que ça a été la première fois où il a vraiment dit non. Enfin, en posant, quoi, comme un acte. Il a dit non, alors que c'était quand même une belle porte qui s'ouvrait là. Il a dit non. Il est parti, sa mère a trouvé un poste de gardienne à Nantes. Il a suivi sa maman. Et à Nantes, il a fait plein de petits boulots, tout ça. Notamment ce qu'on appelait à l'époque « saute-ruisseau ». Hein, il faisait des livraisons. Aujourd'hui, on dirait livreur ou éventuellement Uber. Ouais. Et puis, il a réussi à rentré à la préfecture de Nantes. Alors, il faisait aussi tous les petits bouts. Enfin, il servait un peu à tout, quoi. Il faisait le café, il mettait le chauffage en route le matin, il faisait les livraisons. Mais il travaillait à la préfecture. Et là, sa mère, qui avait toujours des difficultés, était toute seule en plus pour l'élever, hein. Le père était mort depuis, le père qui avait été militaire était mort depuis longtemps. Et là, elle lui a dit, Michel, ce poste à la préfecture, il est pour toi, faut que tu le prennes, et puis tu feras ta... Tu feras carrière à la préfecture. Pour elle, c'était une réussite. C'était la fin de à chercher tous les jours comment se nourrir, comment trouver un peu d'argent et tout ça. Être fonctionnaire, c'était quand même quelque chose de beau. Et il a dit non. Il a dit non à sa maman. C'est pas non plus évident, ça. C'était quand même la personne qui lui voulait le plus de bien sur Terre à l'époque. Il lui a dit non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Rond de cuir, c'est pas, je me sens pas la vocation. Voilà, il a dit non. Et puis bon, dans le même temps, il y a des papiers qui lui sont passés entre les mains, des papiers d'identité, des choses comme ça. Il en a fourni à la résistance. Il a été obligé de se cacher. Voilà, la libération est arrivée, heureusement, et donc à ce moment-là, il est arrivé à Paris, accueilli très chaleureusement par Henri Poulaille. Alors Michel, qui voulait tout connaître, et notamment, mais pas que, sur la littérature prolétarienne, il a rencontré tous les auteurs qui s'inscrivaient dans ce courant, et Henri Poulaille lui a dit, maintenant tu vas, je t'estime capable de diriger une revue, Les Cahiers du Peuple, et donc tu vas, t'es rédacteur en chef, et puis voilà. Mais encore une fois, alors Poulaille, c'était quelqu'un de très, très chaleureux et tout ça, mais qui avait une vision quand même des fois un petit peu avec des œillères, quoi. La littérature prolétarienne, c'est des ouvriers ou des paysans qui parlent du peuple, et point. C'est la littérature du peuple, pour le peuple, et Poulaille, il s'arrêtait un petit peu à ça. Et puis tout ce qui était en dehors, ça n'allait pas. Et alors ça, c'était valable pour la littérature, mais c'était valable aussi pour toutes les autres formes artistiques, et notamment la peinture. Et... Michel, très tôt, quand il était à Nantes, il a découvert les bibliothèques, un monde entier à apprendre, à découvrir, et puis a aussi poussé les portes des galeries de peinture. Alors ça, c'était pas évident quand même, parce que quand un gamin qui s'arrête devant une galerie de peinture avec des toiles, alors il y a des toiles, c'était des beaux paysages, des choses comme ça, bon, c'est relativement facile à comprendre, mais... Lui, ce qui l'interpellait, c'était toute la peinture abstraite. Voilà. Alors, il poussait les portes des galeries, il rentrait, il regardait. Et puis, bien sûr, un gamin pas forcément très bien habillé, et puis qui s'arrêtait comme ça, en général, il se faisait un petit peu mettre à la porte. Mais il voulait comprendre qu'est-ce que c'était que la peinture abstraite, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Ce qui fait que quand il est arrivé à Paris, il a continué, il a rencontré tous les peintres abstraits de l'époque. Il a sympathisé avec pas mal d'entre eux. Il a écrit énormément de critiques sur ces peintres. Il les a vraiment... aider autant qu'il pouvait. Et il a créé une revue qui s'appelait Simèse pour défendre ce courant de peinture. Et là, pour Poulaille, ça n'allait plus, ça. La peinture abstraite, c'était une peinture bourgeoise. Et Aragon était en train de se perdre. Ça n'allait plus. Donc là, pour moi, c'est la troisième fois où Michel Aragon a été capable de dire non. Il a dit... En gros, il n'avait pas passé exactement comme ça, mais il a dit non à Poulaille. La peinture abstraite, ça m'intéresse, j'ai envie d'en parler. Et c'est pas de la peinture bourgeoise, il ne faut pas voir les choses comme ça. L'art, c'est aussi autre chose, ça peut transcender un petit peu les classes sociales, ça peut transcender. Enfin, l'art, c'est aussi ce qui peut nous réunir et pas nous éloigner. Et là, il s'est fâché avec Henri Poulaille, qui n'a pas du tout compris cette démarche. Et alors que Poula, il se posait un petit peu quand même comme son père spirituel. Hein, il y avait des liens très, très forts. Et ils se sont brouillés pendant quelques dizaines d'années quand même. Hein. Voilà. Après, ils se sont revus bah, quand Michel a publié l'histoire de la littérature prolétarienne. Poula y a vu que Michel n'était pas passé de l'autre côté, qu'il n'était pas devenu un grand méchant bourgeois. Et puis là, bon, voilà, la relation est repartie comme elle n'aurait jamais dû s'arrêter. Mais Michel était capable donc une troisième fois de dire non. Et puis la quatrième fois, c'est avec Édouard d'Oléans. Édouard d'Oléans, ça a été le premier universitaire à s'intéresser au monde du travail, au syndicalisme, à toutes ces choses-là, au prolétariat. Et quand il a rencontré Michel, il s'est dit « mais c'est fou, ça, ce gamin qui en veut autant, qui sait autant de choses, faut pas qu'il stagne, faut qu'il fasse une carrière universitaire ». Alors bien sûr, il n'a pas les diplômes et tout ça, mais moi, je vais peut-être pouvoir l'aider. Voilà. Et donc, il a proposé à Michel de rentrer à l'université et de faire une carrière là. Et Michel et Édouard d'Oléans, alors là, il y avait une grosse différence d'âge, une quarantaine d'années aussi entre eux. Et Édouard d'Oléans se posait un petit peu, lui, comme le grand-père de Michel. Il y a des liens comme ça, des liens infinitaires, des liens... Et Michel a été capable, encore une fois, de dire « Non, je ne veux pas d'une carrière universitaire. Je ne veux pas d'une carrière chez les curés. Je ne veux pas d'une carrière de fonctionnaire. Voilà, je ne veux pas être étiqueté écrivain prolétarien et puis pouvoir en sortir. Et je ne veux pas me retrouver dans un amphi à donner des cours et tout ça. Je veux autre chose. » Je pense qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait à l'époque. Hein. Mais il voulait écrire autant qu'il pouvait. Et il voulait écrire... Je crois que ça, c'est le fil directeur de tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit des choses très différentes, Michel Ragon. Il y a tout ce qu'il a pu écrire sur la littérature prolétarienne, mais il y a aussi tout ce qu'il a pu écrire sur la Vendée, hein, les guerres de Vendée, mais pas que. Ses parents, ses grands-parents, toutes ces petites gens de Vendée sur lesquels il a écrit. Il a écrit bien sûr aussi sur l'art abstrait, énormément de choses, sur l'architecture et l'urbanisme aussi, plein de choses. Et puis tout le restant, hein, sur le dessin d'humour, par exemple, c'est pas rien non plus. Hein. Mais il y a toujours un fil directeur dans tout ce qu'il a pu faire, c'est comment rendre hommage au milieu d'où je viens, voilà, aux petites gens qui sont les miens, et comment leur rendre hommage. Voilà. Et au fil du temps, ça va s'affiner, cette vision des choses. Il y a les petites gens qui sont sans milieu d'origine, et puis les petits gens qui se révoltent aussi. En l'occurrence, les anarchistes. Voilà. Et tout au long de ces livres, de sa carrière d'écrivain, on va retrouver ce film directeur qui est présent partout, même ça somme sur l'architecture et l'urbanisme. Pourquoi il a écrit ça ? C'est aussi son intérêt pour le logement social aussi, pour l'utopie par le logement. Enfin, le logement, c'est pas rien non plus. L'architecture, c'est pas rien non plus. Comment une ville est bâtie, ça, et toutes les différences de classe sociale, quand on visite une ville, ça nous saute aux yeux. Et ça, c'est cette vision-là qui transparaît dans l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture. Voilà. Et dans tous ses bouquins, jusqu'à, pas du tout son dernier, mais quand même l'un, quand il était vraiment en tant qu'écrivain, capable de mettre en scène plein de personnages, plein de des époques et tout ça, La mémoire des vaincus, où là, il rend hommage aussi à tous ces anarchistes connus ou complètement inconnus, qui ont permis... Bah de faire en sorte qu'on vive dans un monde un petit peu moins pire que ce qu'il pourrait être. Hein, c'est... Quand Michel Ragon a publié la mémoire des vaincus, moi je me souviens à l'époque que beaucoup de... beaucoup d'anarchistes disaient « Pourquoi les vaincus ? On n'est pas les vaincus. » Hein, Dominique ? Tu m'avais dit ça, toi, entre autres. Pourquoi les vaincus ? Moi, je pense qu'aussi, les anarchistes sont les éternels vaincus. Voilà. Mais c'est pas grave, ça. Vaut mieux être vaincu et avoir fait des choses, avoir tenté de se battre, avoir tenté de changer l'ordre social, que de ne pas être vaincu et d'avoir rien fait. Et je pense que quand la mémoire des vaincus, il faut prendre le titre autrement. Et c'est comme ça que je termine mon livre « Une rage de lire » sur le jeune Michel Ragon. En fait, Michel Ragon, avec ce titre-là, il faut rajouter une petite chose devant, c'est « Je serai la mémoire des vaincus ». Je pense que c'est ça qui est derrière aussi, et derrière ce livre-là et derrière toute son œuvre. « Je serai la mémoire des vaincus ». Et les vaincus, les éternels vaincus vont, par ma voix, une voix parmi d'autres, s'exprimer, voilà, et dire on existe. On a aussi, d'abord on a des droits, on a le droit de prendre la parole, et puis on peut peut-être essayer de changer les choses. Et toute l'œuvre de Michel Ragon, ça va être ça. Je suis dans les temps ?
Oui.
Alors, on a oublié de le dire, ça a été dit ou pas dit, mais il y a des intervenants et tout ça. Si vous avez des questions et tout ça, il ne faut pas hésiter. Hein. Oui. Il y a un micro qui doit circuler.
C'est maintenant, on a jusqu'à 11h30, avant l'intervention et la lecture de Flo. Donc, voilà, on va passer aux questions, aux discussions, maintenant.
Oui, alors, Oui, alors Dominique, je milite au groupe Kropotkine de la Fédération anarchiste. Et j'aime beaucoup Michel Ragon. C'est un des deux parrains de notre groupe avec Jacques Tardy. On n'a pas fait les choses à moitié dans un groupe anarchiste de milieu rural. Alors je voulais dire deux choses. Un, sur la première partie de ton exposé, mais je te l'avais déjà dit à l'époque, il y avait un grand, dans l'histoire de la littérature libertaire, il y avait un grand manque. Et comme le travail était vraiment très sérieux et que j'en ai pas trouvé d'autres, j'avais trouvé intéressant de te le dire, je le redis là pour les gens qui le liraient, il faut rajouter Yves Gibeau. Hein, je pense que Thierry sera tout à fait d'accord.
Notamment.
Notamment, oui. Mais moi, celui-là, il est, quand même, pour moi, il était incontournable. Et ensuite, pour la mémoire des vaincus, pour rebondir sur ce que tu as dit à la fin de ton exposé, Michel Ragon avait toujours promis au mouvement libertaire un livre pédagogique sur l'anarchie. J'écrirai un livre pédagogique sur l'anarchie pour que les gens, à travers un roman, alors pour ceux qui n'ont pas lu la mémoire des vaincus, je vous l'invite, on révise un siècle d'histoire, il n'y a pas d'erreur historique. Hein, les personnages qu'il fait intervenir, ils disent les positions qu'ils ont tenues de leur vivant. Et il y a juste un personnage, Fred Barthélémy, qui lui traverse tout l'histoire avec un regard, soit en tant qu'acteur, soit avec un regard libertin. Et vous saurez tout sur l'anarchie à la fin du roman. En plus, c'est bien écrit. C'est une belle histoire d'amour. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, il va être réédité, m'a dit Françoise. Donc, profitez de ça. Nous, on s'en sert comme livre de présentation de l'anarchie. C'est vraiment un grand merci qu'on lui dit à ce niveau-là, parce que c'est un gros travail, quoi. Voilà, j'ai plein de choses à dire, mais je préfère...
Alors, sur le mouvement anarchiste, il y a bien sûr la mémoire des vaincus, et puis il y a aussi la voie libertaire, hein, qui est presque un bouquin d'anthropologie, voilà, sur le mouvement libertaire. Alors, avec les gens qu'il a pu connaître, et puis aussi sur les grands ancêtres.
Alors, juste, je voulais vous dire un mot sur le film que vous allez voir dans la salle tout à l'heure. C'est un film sur Michel Ragon, itinéraire d'un libertaire. Donc, ce film a été tourné en 1996 à la demande d'Alexandre Skirda. Alors, ceux qui sont un art, ils connaissent Alexandre Skirda, qui a écrit beaucoup sur Macno. Nous avions fait avec Alexandre Skirda un film précédemment sur Marcel Bodi. Et Alexandre Skirda m'a... Alors ça, ce film a marché. Sur Michel Ragon, on a eu un problème technique. Mais on a fait quand même un enregistrement qui dure presque une heure et demie, et où il trace toute sa vie. Alors notamment, j'ai été content de savoir que Thierry Maricourt avait parlé de Louis Lecoing, parce que nous sommes à l'Union pacifiste. Et j'ai lu, l'entretien là que j'ai réécouté, il parle longuement de Louis Lecoing, justement. Et il parle de d'autres, de les Anard, hein, Leval, tout ce bon temps, tous ces gens-là. Bon, donc si vous voulez, c'est un entretien qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Parce que, à cause de ce problème technique, la télé n'en voulait pas. Donc, j'ai ressorti ces archives, parce qu'il y a beaucoup de films. Moi, j'avais fait un film sur Mépicré, sur Gene Bizot, enfin, ceux qui connaissent, avec les amis du Métron. Et le Métron, justement, j'étais content que Thierry Maricourt parle des militants vivants. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les militants vivants. Parce qu'ils pouvaient aussi donner leur point de vue sur ce qui s'était passé, sur ce qu'ils vivaient aujourd'hui, et comparer à ce qu'ils avaient connu. Et en plus, comme ils étaient âgés, je prenais les gens à partir de 80 ans, hein, ils n'avaient plus rien à perdre. C'est-à-dire que là, ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Ils avaient terminé, si on peut dire, presque leur itinéraire. Donc, ce document... J'ai récupéré ces archives, j'ai fait un bout à bout que vous allez pouvoir. Je l'ai réécouté là avant de venir et je me suis rendu compte, moi j'avais oublié pas mal de choses, qu'effectivement, il justifie chaque fois son engagement du côté anarchiste. Alors, connaissant Alexandre Skirda, vous savez qu'Alexandre Skirda était un anarchiste engagé. Donc, quand on avait fait le film avec Marcel Baudy, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Marcel Baudy à Limoges, qui était quelqu'un qui était en Moscou, qui était devenu un copain de Lénine. Alexandre Skirda essayait chaque fois de lui faire dire du mal, bien sûr, des communistes. Mais à Marcel Baudy, qui regrettait beaucoup ça, parce qu'il s'était échappé hein, de l'URSS, ne voulait pas dire beaucoup de mal des communistes. Il était devenu anarchiste, mais il ne voulait pas. Alors, quand on est allé voir, justement, Michel Ragon, tout était axé sur l'anarchisme. Et, effectivement, Michel Ragon, je ne sais pas s'il était né anarchiste, mais enfin, dès le départ, tout son itinéraire, effectivement, correspondait à ces idées libertaires. Voilà. Bon, ben, écoutez, de toute façon, le film va passer en boucle dans la salle. Et puis j'ai fait un autre enregistrement, mais ça, ce sont parce que je filmais beaucoup dans les manifestations et tout ça. Il y a eu la fête du livre à Publico en 1997. Et Michel Ragon, à l'extérieur, dans la rue, présentait ses livres. Mais là, il était interrogé par des universitaires qui posaient des questions plutôt sur la littérature. Donc c'est pas tellement l'itinéraire anarchiste, c'est plutôt la littérature. Ce document, je l'ai amené aussi. Il est là-bas, ceux qui voudront le voir. Et puis, moi, il me reste à remercier Thierry Maricourt. Je ne savais pas qu'il avait été objecteur de conscience. Insoumis, ce qui est pire, parce qu'on en a connu, des insoumis. Justement, ils ont été souvent défendus par notre ami aussi, Maurice Monté, et qui avait pris la succession de Louis Lecoing. Et tous ces insoumis, on en a rencontré justement aussi quand j'ai tourné le film sur Mépicré, parce que Mépicré voulait qu'on en parle beaucoup, mais certains étaient encore clandestins. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu tous venir à l'entretien parce que c'était un peu compliqué pour eux de prendre ce risque. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Excusez-moi, j'étais peut-être un peu long.
Il y a d'autres intervenants ? Je rajouterai deux points s'il n'y a personne. Juste dans les livres, Dominique a abordé, je pense qu'il faut en rajouter un quand même, par rapport à la connaissance du mouvement ouvrier, c'est les damnés de la terre de Poulaille, qui est vraiment indispensable et fondateur sur l'histoire du mouvement ouvrier au début du XXe.
Alors moi, je vais juste faire un petit point. Alors, sur les femmes dans l'œuvre de Michel, c'est vrai qu'il y en a, en même temps, il y en a plein. Hein. Il y a voilà, il n'a pas du tout oublié les femmes. Et les femmes ont été très importantes dans sa vie, de sa mère à Françoise, qui nous fait l'honneur d'être là, et puis toutes les autres femmes. Voilà, c'est... Mais aussi en tant que personnage de fiction, hein, il y en a beaucoup. Et juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où Dominique me disait, dans ton histoire de la littérature libertaire, il manque... quelques noms. Enfin, forcément, quand on fait ce genre de bouquin, il ne peut que manquer. Et il y a Yves Gibeau, effectivement, que j'ai oublié, honte sur moi. Et j'ai oublié aussi Christiane Rochefort, une grande dame des lettres qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais je pense que son nom reviendra. C'est obligé. Mais je vais juste faire très rapidement un petit point sur ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, parce que c'est quelque chose qu'on va réentendre au long des deux jours, ça va revenir régulièrement dans la bouche de l'un ou de l'autre. Alors, moi, quand je parle de la littérature prolétarienne, je vais faire monter ça à la toute fin du 19e siècle, avec après la Commune de Paris. La Commune, il y a eu l'Internationale ouvrière, la scission, toutes ces choses-là. Et après la Commune de Paris, il y a eu une certaine libéralisation qui s'est mise en place. Enfin, tout ça, c'est entre guillemets. Et en France, on a eu l'école gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Ça a été une chose. Et puis la création aussi des bourses du travail. Et les deux se conciliant, ça a donné plein de jeunes hommes et jeunes femmes qui, à partir du début du XXe siècle, ont été capables d'avoir conscience de leur place dans le monde, de leur place en tant que prolétaires dans le monde, et puis de l'exprimer. Hein, jusqu'à l'école obligatoire, les écrivains prolétariens étaient très 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 peu nombreux, mais de fait, parce qu'ils pouvaient pas, ils savaient pas écrire non plus, ou ils savaient pas lire, ou à peine, il fallait déjà s'approprier l'outil avant de pouvoir l'utiliser. Donc à partir du début du XXe siècle, il y a toute une flopée de jeunes qui sont arrivés et qui se sont mis à dire « moi j'existe, hein, je travaille à la poste, je travaille dans le chemin de fer, je suis paysan, ou je suis instituteur, et puis j'ai aussi une conscience de classe et j'ai des choses à dire, et tous ces gens-là vont s'exprimer ». Et là, alors, il y a eu trois écoles qui sont apparues à peu près dans les mêmes temps, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, en fait, concrètement. Il y a eu ce qu'on a appelé le populisme, avec Thérive et Le Monnier, hein, deux auteurs plutôt bourgeois, qui ont créé donc cette école populiste en disant « on va parler du peuple ». On va parler du peuple. Voilà. En fait, d'autres l'avaient déjà fait. Chez Balzac, on peut trouver des pages avec des prolétaires. Chez Zola, énormément. Enfin, beaucoup l'avaient fait, mais eux, ils ont théorisé là-dessus. Mais le but, c'était pas de donner la parole au peuple, c'était de parler du peuple. Donc, avec une vision bourgeoise des choses, mais les figurants, on va les mettre un petit peu devant. C'était ça. Bon, c'est gentil, hein. Pourquoi pas, c'est pas mal, hein, ça. Mais c'est très limité, forcément. Dans le même temps, il y a eu la révolution soviétique, hein, voilà. Et là, il y a eu, le prolétariat était soi-disant au pouvoir. La création du Parti communiste en France en 21. Et là, des gens ont dit, il faut parler du peuple, mais c'est le peuple qui va le faire, et on va faire en sorte. Ce peuple qui a toujours le mauvais rôle, on va en faire en sorte de le magnifier, hein, de mettre des héros en avant, voilà. Une association a été créée, c'est l'AER, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, sur ordre du Parti communiste de France et puis du Comintern à Moscou. Voilà. Et là, l'objectif, c'était vraiment de montrer des prolos. D'ailleurs, il y a des affiches qu'on peut voir. Enfin, c'est ce qu'on appelle le réalisme socialiste aussi. Hein. Alors là, c'était essentiellement quand même des hommes qu'on voyait, des grands bonhommes costauds, blonds, avec la femme qui était un peu sur le côté, et puis les enfants derrière. Et puis il y avait un grand soleil au-dessus d'eux, l'avenir radieux du prolétariat. Bon, c'est ce que ça a donné. Voilà. Et puis la troisième tendance, le troisième courant de la littérature prolétarienne, c'est celui qu'a mis en place Henri Poulaille. Alors Henri Poulaille, il est né en 1896. Il a été orphelin à 13 ans. Il s'est retrouvé à faire toutes sortes de boulots, et lui aussi saute-ruisseau. Hein, voilà, plein des boulots physiques et des boulots manuels. Et par un concours de circonstances, il s'est retrouvé à être embauché par Bernard Grasset. Bernard Grasset, qui était un grand, grand nom de l'édition. Enfin, c'est toujours un grand nom, l'édition Grasset. Mais à l'époque, c'était il y avait Gallimard, il y avait Grasset. Enfin, il y avait Stock, il y avait quelques maisons d'édition en France. Et Grasset, c'était quand même... Et puis, c'était un éditeur qui en voulait, hein, c'est lui qui a mis en place, après, avec De Noël un peu plus tard, mais toutes les campagnes de promotion autour d'un livre, hein, qui a décidé de vendre le livre plus comme un objet purement intellectuel, mais aussi comme un produit. C'est, voilà, qui était un petit peu Bernard Grasset. Et il a embauché Henri Poulaille pour être directeur du service de presse. C'est pas rien, ça, c'est un poste important dans une maison d'édition, parce que service de presse, c'est lui qui va envoyer des bouquins à tous les critiques, tous les gens susceptibles d'en parler, et puis si ça marche, ça fait des ventes. Donc c'est quand même un poste stratégique qu'a occupé Poulaille, qui l'a occupé pendant plusieurs dizaines d'années, et dans son bureau de la rue des Saints-Pères, Poulaille, il a fait son boulot de directeur du service de presse, tout ça, avec des écrivains qui ne lui convenaient pas du tout, mais qu'il a défendu, parce que c'est son poste. Et puis là, on a aussi profité pour défendre tous ces écrivains du peuple qui lui tenaient à cœur. Donc c'est Poulaille qui a directement lancé Jean Giono, par exemple. Hein. Voilà, Giono qui a après un petit peu oublié de ces choses-là, qui n'a pas été forcément très reconnaissant, mais c'est Poulaille qui l'a lancé. Mais il a lancé aussi, avec son poste, ça lui a permis soit de publier directement des auteurs prolétariens, soit de les faire publier chez d'autres éditeurs avec lesquels il était en cheville. Voilà. Donc Poulaille, il y avait vraiment un poste clé, et c'est lui qui a théorisé la littérature prolétarienne faite par le peuple, pour le peuple. Alors ça, c'est très beau comme idée, hein. Sauf que ça n'a pas marché du tout. Le peuple n'a jamais lu cette littérature prolétarienne, enfin, ou très très peu. La littérature à l'eau de rose, ça marchait très bien à l'époque, ça a continué de marcher très bien, ça marche toujours très bien aujourd'hui. Enfin, la littérature à l'eau de rose, ou ce qu'on peut assimiler avec ce mot. Mais voilà, la littérature du peuple, pour le peuple, ça n'a jamais très bien marché. Mais Poulaille a vraiment défendu ça, et il a mis en place aussi ce qu'il a appelé, lui, le groupe prolétarien. Il ne voulait pas parler d'école. Voilà, le groupe prolétarien, un groupe comme un groupe d'amis, finalement, un groupe affinitaire, qui allait défendre cette conception de la littérature. Voilà, où Michel Ragon le groupe dans lequel Michel Ragon est entré quand il est arrivé à Paris, et puis après, il s'est mis un peu à l'écart, quoi. Voilà en littérature prolétarienne les trois grandes tendances qui existent. Aujourd'hui, il existe toujours un prix populiste, mais ce n'est plus un courant constitué, c'est juste un prix qui est attribué tous les ans. L'AER, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires du Parti communiste, ça n'existe plus. D'ailleurs, est-ce qu'il existe encore un Parti communiste? Je ne sais plus. Et puis, il n'y a plus de groupe prolétarien constitué, quoique la revue Fragment aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche.
Juste pour compléter, d'ailleurs, tu as abordé Poulaille. Poulaille, c'est son poste, sans doute, chez Grasset, les capacités de traduction, mais c'est aussi surtout des revues. Les revues Nouvel Âge, Prolétariat, à contre-courant, maintenant après la guerre 40. Et là, il va faire connaître des gens qui viennent d'en bas, et aussi des autrices. Hein, je vais en citer quelques-unes. Henriette Vallée, téléphoniste, qui a fait un travail remarquable avec un livre qui s'appelle Madame 70, qu'on n'a pas ici aujourd'hui, mais qu'on a diffusé, qu'il faut lire, à mon avis, qui a été descendu à l'époque, en 1936, par Fréville dans l'Humanité, qui a dit, oui, on peut parler de la classe ouvrière. Madame 70, c'est une femme qui est à l'Hôtel Dieu, qui va accoucher, et son numéro, c'est Madame 70, c'est une grande salle, c'est un livre très très dur. Et Fréville a dit dans l'Humanité, faut parler de la classe ouvrière, mais pas comme ça. c'était un témoignage. C'est écrit, hein, on peut tout ça, on peut vérifier. Il a fait connaître Nengdorf, je ne sais jamais comment on dit, Marguerite Oudou, qui était déjà connue. Ensuite, Marcel Capi, qu'on oublie, qui était syndicaliste et féministe, dont on ne parle pas assez, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les hommes passèrent », qui raconte en milieu paysan la guerre arrive et il y a le grand-père qui est alité et qui ne peut plus travailler. Et comment les... Parce qu'on parle souvent des femmes dans les usines de munitions pendant la guerre qui sont embauchées. Mais il y a aussi dans le milieu de la paysannerie des véritables révolutions qui ont été faites sur la place de la femme. Et ce livre est un beau témoignage. Florence Littré. Et donner vraiment dans ses revues la parole ou la recension de livres, c'est un homme qui a fait aussi connaître, je parle de Poulaille, hein, toute cette littérature. Et si vous voulez approfondir le Nouvel Âge littéraire, le Manifeste, nous en avons quelques-uns en librairie. Voilà, je pense qu'on est dans... Pardon, s'il y a encore une intervention. Oui, Fred. Attends, tu vas prendre le micro. Non, tu n'es pas en âge là.
C'est pour être enregistré, ça.
Tu fais comme tout le monde.
Là, parce que vous parlez de la littérature prolétarienne, on va dire un peu passée, mais est-ce qu'actuellement, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, Le Poulpe avec la série Le Poulpe portée par Puy, comme faisant partie de la littérature prolétarienne, en sens où il ne... Tout le monde connaît ici, ouais, Le Poulpe. Voilà. Non.
Enfin, moi, je vais répondre parce que je connais bien le Poulpe, hein, mais pour moi, ce n'est pas la littérature prolétarienne. La littérature prolétarienne, c'est aussi mettre en scène des prolétaires, montrer leurs conditions de travail, montrer leurs conditions de vie. Voilà. Alors, le Poulpe, enfin, j'aime bien, hein, le Poulpe, ce n'est pas la question, mais c'est du roman policier. À la différence d'autres romans policiers, c'est des gens de tous les jours qui sont acteurs. Voilà, c'est pas un super-héros ou un super-détective ou un policier. Voilà. Ça, c'est l'intérêt, mais c'est... bon.
Enfin, ça peut ouvrir un débat, hein, parce que moi, je suis pas d'accord, par exemple, avec ce que vient de dire Thierry. Parce que, non, mais c'est le contexte. Nous, on a choisi de s'appeler Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, pour avoir une approche un peu plus large, parce que tu parlais tout à l'heure de Denynx, avec ses références historiques, etc. Il y a un contexte social qui fait qu'il peut se retrouver. Et on retrouve, sans doute dans certains écrivains qui ont été publiés au Poulpe, ce type d'approche sociale en même temps. Maintenant, je veux dire, ce qu'on essaye de faire dans la revue, excusez-moi de faire un peu d'autopromotion, mais dans la revue, on essaye, par exemple, Philippe Geneste, qui fait depuis le numéro 1, enfin le numéro 1, je crois, oui, une étude des écrivains prolétariens au sens un peu large, mais avec des nouveaux types de prolétariat de 1970 à nos jours. Il nous fait découvrir plein d'auteurs vivants, présents, soit issus d'immigration, soit des femmes dans les travail de caissière. Et c'est vraiment, j'espère d'ailleurs qu'on en fera un bouquin après, mais je veux dire, il y a des témoignages, c'est pas... Je veux dire, nous, ce n'est pas conjugué qu'au passé. Hein. Il y a des témoignages vraiment concrets d'aujourd'hui. On a édité François Lebert, le premier bouquin qu'on a édité, puisqu'on a deux bouquins, on n'a pas beaucoup. Le premier, c'est François Lebert. François Lebert, il vit près de Vendôme. Il était ouvrier pour l'industrie automobile toute sa vie, sur les sièges. Et vers l'âge de 42 ans, il a eu une maladie pendant un an. Il s'est mis à lire, etc. Et il est devenu, sur certains points, un érudit et aussi un graphiste, parce qu'il dessine en même temps. C'est un livre qui regroupe les deux. Et il est bien vivant, quoi. C'est pas simplement nous intéresser à des auteurs du passé. Même si, moi, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire découvrir, hein, et on le voit dans les salons, et ça a été le cas pour Henriette Vallée, moi, je l'ai vu, ça, concrètement, des gens qui ne connaissaient pas du tout. Et voilà. Bon, j'arrête, je suis trop long. Alors, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais on est à 30.
Oui, il y a deux questions dans
deux questions, et on clôt là, et après, Florence, tu pourras faire la lecture.
Je ne sais pas si ça a un rapport avec tout ce que vous venez de dire, mais pourriez-vous nous évoquer cette notion de refus de parvenir que Poulaille développe et que Ragon essaye de...
Enfin, si c'est le refus de parvenir, je crois que l'expression... C'est d'Humbert Thierry, qui meurt pendant la guerre 14, qui faisait un travail de réflexion sur la pédagogie. Je crois que c'est chez lui que ça apparaît. Et en fait, c'est une autre formule que celle de Michelet, qui disait Il faut monter, mais monter en restant soi. Je crois que c'est ça la formule de mémoire. C'est-à-dire, parce que si on prend tous les autres, Michel Aragon, je veux dire, il va accéder à une place sociale qui n'est plus, et c'est valable pour plusieurs autodidactes, pas pour d'autres. La question, c'est comment je reste fidèle à mes origines et à mes... Oui, je crois que c'est à mes origines. Je crois qu'il y a quelque chose qui marque. Alors, il y a deux types de cas. Hein. Il y a ce qu'on appelle les parvenus, c'est-à-dire qui s'empressent de renier leurs origines et surtout de les effacer. Ils ont le cul entre deux chaises aussi, hein, quelque part, comme les autodidactes aussi, parfois. Mais c'est la question de la fidélité à des origines et à ce qui va souvent avec, enfin pour les gens qui écrivent, une volonté de changer les choses. Enfin, pour moi, c'est un peu ça. Après, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être un auteur, de s'acheter un appartement, ou, voilà, qui ne sera peut-être pas le même qu'un ouvrier en banlieue.
Non, et sur le refus de parvenir, enfin moi, ça me fait toujours rire, ça, parce que je me souviens d'un débat qu'il y avait eu avec Michel Aragon, justement, et ça devait être à Merlieu, si je ne me trompe pas, ou peut-être ailleurs, où justement on avait été questionné sur le refus de parvenir, et moi, j'avais dit, j'aimerais bien pouvoir refuser de parvenir. Parce que quand on est auteur, qu'on se retrouve en courant prolétarien et tout ça, c'est pas toujours facile financièrement. Mais je crois que chez Michel Aragon, pour revenir à Michel Aragon, le refus de parvenir, il est là d'un bout à l'autre. Et juste, alors on peut expliquer ça précisément avec telle ou telle attitude à tel moment ou ce qu'il a pu écrire. Mais moi, je m'en tiendrai juste à une chose, c'est... En écrivant, et puis à partir du moment aussi où il a écrit sur l'art abstrait, où il s'est retrouvé dans un certain milieu, un milieu avec de l'argent, et puis après quand il a publié avec des bouquins qui ont vraiment marché, qu'il s'est retrouvé dans le monde de l'édition, qui est un monde assez crapuleux dans l'ensemble, Michel a toujours, alors il l'a dit, il a écrit, je suis là, mais en fait c'est pas ma place. Alors c'est pas cul entre deux chaises, mais c'est moi j'aime bien sa petite phrase qui remet dans plusieurs qui utilise à plusieurs reprises. J'ai toujours l'impression d'être gibier plutôt que chasseur. Voilà. Et pour moi c'est ça aussi le refus de parvenir chez Michel Aragon. C'est je suis là parce que j'écris, ça marche un peu, tant mieux. Mais je ne suis pas à la place que je devrais être tout à fait. Enfin, et puis tous ces gens-là dont je parle dans mes bouquins, ils devraient être là eux aussi. Voilà, je vois comme ça leur refus de parvenir, quoi.